17h05, passé de quelques minutes, Daniel Mermet, là-bas, si j'y suis sur France Inter.
Ouais, salut Mermet, ouais, c'est les étudiants de Rennes 2 et autres jeunes de Rennes. Après avoir fait la manif plan-plan contre le CPE là, avec les autres syndicats, on est un petit millier à avoir quitté la manif et on, pour l'instant on occupe encore la chambre des métiers.
Et la rue.
Et la rue devant. Donc tu vois, tout le monde va faire un peu de bruit pour dire qu'on est un paquet. Voilà, bon, vous faites du bruit pour Mermet. Bon allez, salut, et puis bon, à la prochaine.
Salut à tous, c'est le repère de Lyon qui participe à la manif contre le CPE, voilà, dans l'ambiance. Et ben, bon courage à tous, on continue.
Oui, bonjour Daniel, un radio portable de Marseille pour la manif contre le CPE. Voilà Daniel, il fait un temps magnifique, le soleil est très beau, le printemps va bientôt arriver. Je pense qu'il risque d'être très très chaud. À bientôt, Daniel. Salut.
Bonjour. Nous sommes les étudiants de la fac de Montpellier et nous vous téléphonons pour vous dire que nous allons faire une contre-manifestation pour le CES, pour le... Ensuite, comment ça s'appelle déjà? Le CPE. Voilà. Nous allons organiser ça et il y aura du monde, croyez-nous. Au revoir.
Oui, bonjour, ben, c'est Patrick, là, un instituteur à la retraite qui est en plein défilé dans une petite ville de l'Ain qui s'appelle Belay, 3000 habitants, rendu célèbre par son ancien maire Charles Millon. Je dois dire qu'on est des centaines et des centaines là, on bloque la circulation et il y a plein de jeunes avec nous et ça c'est réconfortant. Et voilà, j'espère que Villepin écoutera tout ça ce soir. Allez, salut.
Oui, bonjour Daniel, on est à Belay, c'est une petite sous-préfecture dans l'Ain, et déjà 10h du matin, on y est pour manifester contre le CPE. Tous les jeunes, tous ils y sont, alors à tout le monde qui manifeste après-midi, oh, il faut y aller, faut pas hésiter. Allez, à bientôt.
Voilà, vous avez tout compris, mieux que rien ou en dessous de tous, c'est le CPE, des manifs actuellement partout. Il y en a eu ce matin un peu partout en France, cet après-midi en ce moment même à Paris, et c'est ça dont on va causer aujourd'hui, vous vous en doutez, dans là-bas si j'y suis, avec les étudiants, les chômeurs, les travailleurs et un inspecteur du travail qui s'appelle Gérard Filoche, que vous connaissez, qui va nous donner son point de vue, ses analyses et des indications sur ce CPE. Auparavant, quelques messages encore, ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale de la base UGCU au 01 56 40 37 37.
Bonjour, je suis l'infirmière de la fonderie de Meuse-sur-Loire. Daniel, il faut que je te signale un nouveau drame de l'emploi. C'est la fermeture des fonderies de Meuse-sur-Loire, près d'Orléans et de Beaugency. Il y a 176 personnes sur le carreau. Il y a eu une magouille entre le groupe APM qui nous avait racheté il y a 3 ans et puis PSA, Peugeot Citroën. Il faut savoir que le PDG et son adjoint, Monsieur Caron, c'était Féchant et Caron, avaient déjà fermé plusieurs usines après leur rachat, dont Epeda, à 15 km d'ici. Puis, ils nous ont ruinés, ils nous ont délocalisé les productions à notre insu, dans d'autres usines, en Hongrie particulièrement. Il a déposé le bilan. Il a incité à PSA à refuser l'appui de ce dernier, que ce dernier nous avait pourtant assuré pour notre potentiel repreneur. Aujourd'hui, cette région est complètement sinistrée. Il y a eu la fermeture de Forestier à Beaugency, 157 emplois supprimés, où de nombreux conjoints de la fonderie travaillaient. S'ajoute à des centaines de licenciements chez Lexmark et chez Quell. Les fonderies ici, tu sais, c'est une grande famille. Une ambiance chaleureuse qui ne devait rien aux 4400 degrés des fours de fusion. C'était aussi des conditions de travail très dures. Des expositions à l'amiante jusqu'en 95, à la chaleur, à la silice, les amines et tout un tas d'autres saloperies. et combien de silicoses, cancer du poumon, d'asthme, sans parler des accidents graves où certains y ont laissé leur vie. Tu sais, je sais de quoi je parle, je suis infirmière là-bas, et je peux t'assurer qu'après 30 ou 40 ans d'exposition, il y en a beaucoup qui profiteront pas de leur retraite.
Josiane, bonjour Daniel Mermet, et merci de vos émissions. Je voulais intervenir sur les ondes à propos du fossé que les médias et les hommes politiques s'ingénuent à creuser entre les générations. Mais voilà que l'actualité me fait reporter cette intervention à une date ultérieure. Car une information trop rapidement donnée ce matin sur France Inter m'a fait bondir. Messieurs les politiques, vous qui avez fait pour la plupart de longues études, dont les enfants étudieront jusqu'à 25 ou 30 ans et même plus, comment pouvez-vous décider que les enfants des autres, c'est-à-dire ceux de la France d'en bas, non seulement pourront entrer en apprentissage à 14 ans, mais pourront travailler la nuit dès 15 ans? Vous ne savez pas ce que c'est que d'être très jeune et corvéable à merci. Bien sûr, il y a de bons maîtres d'apprentissage, mais croyez-moi, si l'apprentissage était tombé en désuétude, il y avait de bonnes raisons à cela. Informez-vous mieux avant de disposer de la vie des autres et sortez de votre tour d'ivoire afin de ne pas casser ce que des générations ont mis à construire. Merci de m'avoir écouté. Au revoir.
Le repère des amis de l'Abbatie Jésuite de Strasbourg appelle à manifester le samedi 11 février à 14h, départ place de la Bourse, pour le retrait de la directive Bolkestein. La directive Bolkestein donne la possibilité à une entreprise de l'Union européenne d'intervenir dans n'importe quel pays de l'Union, selon les lois commerciales, fiscales et sociales de son pays d'origine. Vu les disparités en matière de fiscalité, de droits sociaux et de règles commerciales au sein de l'Union, cette directive est une véritable machine de guerre contre les systèmes de solidarité et de protection sociale, car elles amènent inévitablement une mise en concurrence entre les travailleurs de l'Union. Au secours, Bolkestein revient. Alors, venez manifester le samedi 11 février à 14h, départ place de la Bourse et place de l'Étoile, avec les amis du repère de l'Abbatie J'y suis de Strasbourg. Au revoir.
Il n'exclut pas d'avoir recours au 49-3 pour faire passer le CPE en force. Yo, voilà comment il parle aux jeunes. Salut.
Arlène.
Salut Daniel, c'est Sylvie, je t'appelle de Toulon, ambiance prise de parole des étudiants.
Alors, aujourd'hui, nous sommes rassemblés, nous sommes venus nombreux. Nous sommes jeunes, les moins jeunes salariés, les étudiants, ici, nous sommes unis et nous portons un message clair. Aujourd'hui, la majorité que nous constituons exprimera nos quelques dirigeants pour refuser la précarité qu'ils nous imposent. Nous avons su nous mobiliser et informer le plus grand nombre, malgré la tentative de 2020 d'empêcher toute contestation polémique en précipitant son projet. Les contrats précaires ne seront pas une solution pour l'emploi, mais un réel problème. Nous exigeons que le projet CPE soit immédiatement retiré, comme tous les autres contrats précaires. Nous exigeons un nouvellement par le rang des droits des travailleurs, quel que soit leur âge ou leur métier. Nous voulons un droit à l'avenir pour tous.
Bonjour, de Rennes. Je vais vous lire une motion votée à l'unanimité par le conseil d'administration de la fac de Rennes 2, réunie en séance plénière le 6 février 2006. Considérant que le contrat de première embauche est une remise en cause grave du Code du travail, le conseil d'administration, conscient de l'enjeu de la journée d'action, invite très fortement l'ensemble de la communauté universitaire, enseignants, personnels, viatos et étudiants, à participer massivement le 7 février 2006 à la mobilisation ainsi qu'aux rencontres débats prévues le matin et l'après-midi. C'est énorme. Le président de la fac, qui s'appelle Marc Gontard, a même mis sa petite touche en disant que la journée d'action contre le CPE, le 7 février prochain, repose sur sur des motifs légitimes d'inquiétude quant à leur insertion future dans le monde du travail. C'est pourquoi je vous demande de bien vouloir faciliter aux étudiants, comme au personnel qui voudrait s'y associer, la participation à la manifestation prévue en leur permettant de s'absenter pendant la durée de la manifestation et en évitant toute disposition qui pourrait les pénaliser. Voilà, c'est énorme. Même le personnel, le président de la fac se joint à nous pour dire que le CPE c'est vraiment de la merde et qu'il faut se mobiliser contre ça. Toute la France, tous les étudiants, les jeunes, tout le monde, ensemble. Ciao.
Nous faisons tout ce que nous pouvons pour convaincre les Français.
Qui dira aujourd'hui une vision humaniste de l'économie,
qui fait du travail, quelque chose qui est un allié de l'homme et non pas l'adversaire.
On ne fait pas assez d'efforts dans notre pays pour faire partager le bon du travail et le besoin. Allez voir ce que c'est que le monde du travail, préparer son intégration, entrer dans l'entreprise. Avec un vrai contrat et dans une vraie entreprise pour avoir une vraie perspective.
Are you ready?
Salut, c'est Daniel Mermet et toute l'équipe de la BASSI, j'y suis avec Olivia Gesbert, CPE. Première manif pour beaucoup de jeunes gens aujourd'hui à travers le pays. Et hier soir, préparation fiévreuse dans le local de l'UNEF à Paris, où Olivia Gesbert a promené ses micros, et pour parler de ce départ dans la vie, le départ dans la vie, rouler jeunesse, sauf que 23% restent sur le quai. Le quart des jeunes actifs ne sont pas actifs, pas d'activité. 620 000 chômeurs parmi les jeunes actifs de moins de 25 ans, c'est-à-dire 620 000 en trop, sans parler des non-inscrits, 440 000, ce qui nous fait plus d'un million, près de 30% de jeunots sur le carreau. Mais ceux qui ont un boulot, bah, c'est pas du boulot, c'est du temps partiel, c'est de l'intérim, c'est du stagiaire pas payé, c'est des intérimaires, comme on dit aussi, des apprentis, du CDD, bref, seuls 12% des 15-24 ans décrochent un CDI. Précarité généralisée, insécurité sociale, vous connaissez la chanson, comme il y a eu le collectivisme ou le taylorisme, nous vivons aujourd'hui l'application d'une doctrine politique, la mondialisation heureuse, la main aveugle du marché, le libre-échange, voilà ce qui devait tout naturellement, tout mécaniquement entraîner la dynamique, l'émulation, la croissance et les lendemains qui chantent, c'était ça ou rien, il n'y avait pas d'alternative, plat unique, pensée unique, mais ça ne marche pas. On le reconnaît, le CPE le reconnaît, on ne cherche même plus à faire croire qu'il faut lutter contre le chômage chez les jeunes ou chez les moins jeunes, contre la précarité, au contraire, on l'institutionnalise, on normalise, on banalise, on accepte la pédagogie de la soumission continue, la défaite politique est reconnue, c'est le renoncement à tout futur. Alors, CPE passera pas, mieux que rien. En dessous de tout, c'est la question que nous nous posons, même si on a un peu une idée sur la réponse. Là-bas, si j'y suis, c'est sur France Inter jusqu'à 18h.
je suis ton CRS. Mes coups de matraque seront pour toi des caresses. Tu es si jeune et moi, je suis si moustachu. Comment puis-je avouer cet amour? Tu es mon étudiante, je suis ton CRS. Pour toi je chargerai avec délicatesse. Malgré les apparences, j'ai un cœur tendre. Comment te le faire comprendre? Pour les syndicats, vous étiez des milliers. Pour les pouvoirs publics, des centaines. Et pour moi, nous n'étions pas debout. Quand je t'ai vu crier derrière la grille, que nous avions posé à la j'étais si troublé que le projectile que tu m'as lancé a trépigné dans mon corps. Oh, 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 oh. Tu es mon étudiante, je suis ton CRS. Mon bouclier ne fera que frôler tes fesses. Je te protégerai, toi qui es si mûre, qui donc t'a bousculé la cuisse, tu lui de l'avoir fait. C'est un collègue, tu sais, il est marrant tout ça. Il n'avait pas fait exprès, il t'a pris pour quelqu'un d'autre. Si ça te prenait de me dire que tu m'aimes, je serais si heureux que le jour même, je mettrais de la rose dans mes lacrymogènes pour que partout ça fasse vite dans mes cœurs. Oh, 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 oh.
Jean-Baptiste, c'est ça? D'accord.
Moi, j'ai 21 ans.
Tu fais quoi?
Moi, je suis étudiant en histoire et en sciences politiques.
C'est un mauvais calendrier en même temps pour vous, là, en ce moment, c'est ça?
Partiel, examen, la moitié des facs en vacances quand la moitié des facs reprennent. Ça, c'est évidemment... il a tout fait pour qu'il n'y ait pas de débat politique à l'Assemblée et pour que les jeunes n'aient pas leur mot à dire cette question-là. C'est une logique qui, en plus d'être mauvaise sur le fond et sur la forme, absolument scandaleuse. Le Premier ministre qui dit... ou vous votez mon texte, vous votez pour, ou alors vous votez contre moi et je démissionne, quoi.
C'est la question de confiance, quoi.
Donc il met sa tête en jeu, là. Et je pense pas que les députés de la majorité voteront contre son gouvernement, mais quoi qu'il arrive, les étudiants lui feront comprendre que, eh bien, ils seront au rendez-vous et qu'ils sont contre son projet, ça c'est sûr. Il a beau être sympa et essayer de faire l'anti-Sarkozy depuis plusieurs mois auprès des jeunes, la réalité de sa politique pour les jeunes, on la voit depuis... depuis le 16 janvier, hein, c'est la précarité pour tous, c'est le libéralisme poussé à sa plus simple expression, et c'est au moins aussi pire que Nicolas Sarkozy pour les jeunes. Hein. Bah non, les masques tombent. Les masques tombent. Parce que toute la logique du gouvernement de dire c'est mieux que rien, c'est mieux que rien, nous, faut qu'on explique au contraire que c'est pire que tout, quoi. Et qu'on montre et qu'on débarra plus B que les contre-feux allumés par le gouvernement sur le logement des jeunes, sur... ce contrat, il leur permettra d'avoir un droit à la formation. Ce contrat, il leur permettra d'avoir un logement plus facilement. Il leur permettra d'avoir un prêt. Ça, c'est ce que dit le Premier ministre. Mais point par point, on arrive à démontrer que c'est complètement faux. Tous les étudiants, aujourd'hui, la situation qu'on connaît, c'est la précarité. Hein. Les étudiants, c'est 100 000 étudiants sous le seuil de pauvreté. C'est 800 000 étudiants obligés de se salarier pour financer leurs études. La précarité, on la connaît tous aujourd'hui quand on s'engage dans des études à l'université. Et ça, c'est une double peine. Et il faut pas croire que le contrat première embauche, ça touchera que ceux qui ont le moins de qualifications. Ça sera demain la règle pour tous les salariés, quel que soit le niveau de qualification. Parce qu'un employeur, il aura le choix entre un CDI et un contrat première embauche. Il aura le choix entre un contrat contraignant et un contrat absolument sans contrainte pour lui. Il n'y a aucune raison qu'il fasse ce cadeau aux salariés de leur dire « Allez, je t'embauche, tu auras le droit de faire respecter tous tes droits. » Et donc, demain, le CPE, ça sera la règle pour tous les salariés, quel que soit leur niveau de qualification. Donc, les petits bourgeois étudiants, il faut changer cette image-là, parce que la précarité, c'est aujourd'hui, c'est maintenant, et c'est pour tout le monde déjà le cas, pour une grande partie entre nous. Aujourd'hui, les jeunes, et de Villepin, ils utilisent les mêmes chiffres que nous là-dessus, hein. Les jeunes, c'est 23% de taux de chômage, c'est 8 à 11 ans avant de trouver un emploi. Ça, c'est une réalité. Et donc, un jeune salarié, quand on lui explique, tu comprends la précarité que tu vis là, t'as l'impression que ça va être juste un CDD, juste une petite période d'intérim. Mais en fait, non, on va l'institutionnaliser, et jusqu'à 26 ans, ça sera ça tes conditions de travail. C'est-à-dire, aucun droit, corvéable et malléable à merci. On a une crise des banlieues, qui est avant tout une crise sociale, c'est-à-dire qu'il y a des jeunes dans les banlieues qui n'ont aucune perspective d'avenir et donc qui se révoltent. Et donc on fait une loi pour essayer de répondre à cette situation. Et qu'est-ce qu'on a dans cette loi? On a l'apprentissage à 14 ans. Ça veut dire quoi l'apprentissage à 14 ans? Ça veut dire qu'à partir de 14 ans, il y aura des jeunes où on dira, bah toi on peut plus rien pour toi, le système éducatif ça sert plus à rien que tu y restes, et donc dès 14 ans on va faire de l'apprentissage. On a un truc, le plan armée formation, je sais plus comment il s'appelle, où grosso modo l'armée maintenant et la nouvelle route secours du système éducatif, et tous les jeunes et ben qui sont exclus, ils peuvent aller faire une petite période de formation à l'armée parce que c'est l'armée qui les remettra dans le droit chemin. Et puis on a le contrat première embauche. Donc on dégage de l'école à 14 ans, on va à l'armée si on est en échec parce que c'est eux qui savent mieux nous former que l'éducation. Et surtout, eh bien, ceux qui arrivent quand même à avoir un diplôme, eh bien, c'est la précarité pour eux jusqu'à 26 ans. Donc oui, c'est cynique parce que c'est absolument pas ça qui répondra à la crise des banlieues. Et c'est pas ça dont veulent les jeunes. Comment on peut dire que on répondra à la précarité, on répondra au chômage des jeunes en instaurant encore plus de précarité et en le rendant complètement légal et complètement normal? Ça tombe très mal, quoi.
Alors le R est vert, le E est bleu, le T est noir, le ouais. R est vert, le A est rouge.
Le I il est noir, mais il y a un point rouge dessus. Je pense que c'est pas, c'est fait exprès, non? Ah oui, on avait plus noir. Oui, voilà. On a plus noir, oui.
Le T est vert, retrait.
Et le C est rouge, le P est noir et le E est bleu, donc du CPE, je pense que ça se verra de loin.
Voilà, et la banderole est en train de se balader vers les rues de Paris. 40 000 manifestants selon les organisateurs et beaucoup moins selon la police, évidemment. C'est en ce moment même dans Paris et c'est toute la journée à travers toute la France, manif contre le CPE. Lui, c'était Jean-Baptiste, 21 ans, étudiant à Tolbiac. Son point de vue, son analyse, et une autre analyse et un autre point de vue d'un aîné, d'un ancien, Gérard Filoche. Gérard Filoche, il est bien connu comme un inspecteur du travail, et il est auteur d'un bouquin fameux, Carnet d'un inspecteur du travail, et il est militant à la gauche socialiste, et il nous donne son point de vue et ses éclairages sur CPE, CNE, CDI, CDD, comment s'y retrouver.
Aujourd'hui, Gérard Filoche, grande manifestation contre le CPE. Dominique de Villepin, le Premier ministre, nous a vendu ce texte comme étant l'arme anti-précarité que les jeunes attendaient. Est-ce que c'est ça le CPE, une arme anti-précarité?
C'est un mensonge éhonté de présenter les choses comme ça. C'est la super précarité, bien sûr. Le CPE est en dessous du CDD, et qui lui-même est évidemment en dessous du CDI. Quand on compare un CPE et un CNE, hein, contrat nouvelle embauche, contrat première embauche, avec un CDD, un contrat à durée déterminée, on voit tout de suite les différences. Un CDD, par exemple, l'employeur doit le motiver quand il choisit de le prendre. Ça doit être pour surcroît exceptionnel de travail ou bien pour remplacement d'un salarié absent. Pour un CNE, il n'aura pas motivé. Il n'y aura pas d'obligation d'avoir un argument pour utiliser quelqu'un de précaire. Au contraire, il pourra choisir librement quelqu'un de précaire contre quelqu'un qui ne le serait pas. Ensuite, le CPE, on nous dit que c'est plus sûr parce qu'on va demander au banquier de faire un prêt ou bien aux jeunes, on lui facilitera d'avoir un loyer grâce à un appartement, grâce à l'OCAPAS. C'est incroyable. Depuis quand un banquier est-il un philanthrope? Les banquiers n'ont rien à faire des recommandations du gouvernement. C'est des gens qui vous font un prêt si vous prouvez que vous n'en avez pas besoin. Ils vous prêtent un parapluie quand il fait beau, ils vous le retirent quand il pleut. Le problème pour le jeune, ce sera qu'il, du jour au lendemain, il ne pourra ne plus payer le prêt. Il pourra ne plus payer son loyer. Puisqu'on peut, avec un CPE, être viré au jour le jour, sans motif. Et le grand problème, c'est le sans motif, qui est une régression de plus d'un siècle et demi. Depuis Germinal, Zola, à l'époque, dans le livre, dans le film, on voit l'ouvrier a peur d'être viré sans motif. Et puis, il a fallu des décennies pour petit à petit, il y ait un droit du licenciement. Et l'Organisation internationale du travail, l'OIT, 140 pays ont signé qu'il fallait un motif pour licencier. C'est un des droits élémentaires de l'homme. C'est dans toutes les déclarations des droits de l'homme. Et voilà ce que Villepin nous fait sauter. Alors il dit, oui, mais sans motif, oui, mais ça, quand même le droit du travail s'applique, alors on pourra pas licencier une jeune femme qui est enceinte. Mais il se moque de nous, Villepin. Bien sûr qu'on pourra licencier une jeune femme qui est enceinte, puisqu'il n'y aura pas de motif à donner. Le patron la licenciera pas parce qu'elle est enceinte. Il la licenciera, point. Si on lui dit, ah, vous appelez ça parce qu'elle est enceinte? Il dira non. Et on lui dit, mais pourquoi? Mais il n'a pas à le dire. puisqu'il n'y a pas besoin de motiver. Donc il n'y a pas de recours quand il n'y a pas de motif. Donc tout est permis. La perte totale des droits. Ne refusez pas d'aller servir un café à votre patron. Il peut vous virer. Ne refusez pas des heures supplémentaires le soir. Il peut vous virer. Même si vous ne les mettez pas sur votre bulletin de paye, ne protestez pas. Il peut vous virer. Si vous êtes dans une petite ville et vous êtes embauché en CNE ou CPE et que vous avez un frère syndicaliste, rompez les liens avec lui. On ne sait jamais, ça peut déplaire. Ne croyez pas que vous allez compter dans l'effectif de l'entreprise, que vous pourrez défendre vos droits. Vous ne pourrez pas. Si vous êtes en situation de danger, n'utilisez pas votre droit de retrait. Vous pouvez être viré. Alors on dira c'est parce que il est en situation de danger. C'est le... Mais il n'y a pas de motif, encore une fois. Donc l'employeur fait ce qu'il veut. C'est l'arbitraire le plus total. Il n'y a pas un argument qui puisse permettre de dire que le CPE est moins précaire que les autres solutions. On n'a pas inventé jusque-là pire. Madame Parisot dit « La vie, la santé, l'amour sont précaires. Pourquoi le travail ne le serait-il pas ?» Réfléchissez à cette phrase. Depuis l'aube de l'humanité, depuis les origines des temps, les humains essaient de ne pas être précaires. Ils ont inventé l'agriculture pour se protéger de la précarité de la cueillette. Ils ont inventé l'élevage pour se protéger de la précarité de la chasse. Ils ont lutté contre la précarité de la faim, de la soif, du froid, de la souffrance. En fait, tout le combat de l'humanité pour s'émanciper de la précarité. Puis là, vous avez des gens tranquillement qui vous disent « Non, tout doit redevenir précaire. C'est ainsi la vie. » Mais c'est un combat de civilisation. Ceux qui nous disent « Soyons précaires, c'est mieux que rien », c'est Cro-Magnon, c'est avant la révolution néolithique. Et c'est plus la civilisation, c'est plus le progrès. Que veulent-ils nous imposer ?
Voilà, inspecteur du travail, une espèce en voie de disparition, Gérard Filoche. Il y a aussi les associations de chômeurs qui s'associent évidemment aux manifestations du jour, assez contre le chômage, la paix, etc., etc. Pascal Pascariello a rencontré Jean-Pierre Guénanten du MNCP, Mouvement National des Chômeurs et des Précaires.
Nous, on peut pas être pour le CPE. Comme l'indique notre nom, on essaie de défendre les chômeurs et les précaires. Pour nous, c'est vraiment la porte ouverte à encore plus de précarité. Et c'est la fin du CDI pour les 18-26 ans. On peut le voir comme ça aussi. On s'est aperçu par ailleurs que il y a eu le CNE, il y a eu le CPE, il y a eu une multitude de contrats aidés en 20 ans. On s'aperçoit que ça produit pas d'effet, ou très peu, ou pour certaines personnes, mais c'est mieux que rien. La politique du mieux que rien ne peut pas être satisfaisante. De plus, c'est souvent accompagné d'exonérations de cotisations sociales pour l'entreprise. Plus on exonère les entreprises de leurs cotisations sociales, et moins la solidarité nationale s'exerce, plus il y a des difficultés à indemniser les chômeurs, plus les chômeurs vont être balancés sur des minima sociaux, des RMI, où le contrôle va être aussi très important. On est toujours dans la culpabilisation, la stigmatisation des personnes. Et la chose sur laquelle on veut appuyer aussi, c'est toujours l'accompagnement des chômeurs et l'accompagnement de la précarité. On s'aperçoit qu'en France, on se rapproche de plus en plus du système danois, qui effectivement permet de la flexibilité, permet aux entreprises de licencier facilement. Mais par contre, au Danemark, à côté, il y a un accompagnement fort. Par exemple, au Danemark, on sait qu'il y a 3 fois plus de moyens mis qu'en France sur l'accompagnement des personnes. C'est de la précarité au niveau du travail, au niveau du logement. Au niveau du déplacement, pour acheter une voiture, la plupart du temps, faut faire un prêt bancaire en CPE. Je suis pas sûr que les gens vont être suivis par leur banque, malgré ce qu'on nous dit qu'il y a un contrat avec les banques, mais j'y crois pas beaucoup. Sur une période de 18-26 ans, ce qui représente 8 ans pour quelqu'un, c'est 8 ans de précarité. Donc comment construire un projet de vie, un projet personnel sur cette forme-là, moi je le vois pas en tout cas.
Précarité généralisée, ça continue, ce qui entraîne la démobilisation évidemment du salarié, l'inefficacité grandissante évidemment des syndicats, mais tout ça réduit le coût du travail, et c'est le but recherché. On retrouve Gérard Filoche.
Monsieur de Villepin ne lutte pas contre le chômage, contrairement à ce qu'il dit. Parce que s'il luttait contre le chômage, il n'aurait pas créé les emplois vieux, il n'aurait pas retardé les départs en retraite. Et vous remarquerez que dans la même loi sur l'égalité des chances qui accompagne le CPE, il propose que les retraités aient un cumul emploi-retraite. Il propose que les retraités puissent être à temps partiel et travailler encore. Il propose que, entre 57 et 60 ans, il y ait 2 CDD de 18 mois consécutifs. Ce, notez-le, exactement après que l'UNEDIC ait supprimé la filière qui, entre 57 ans et 60 ans, permettait d'avoir 42 mois d'indemnité. Donc, on oblige les gens qui allaient partir à rester. Or, c'est quand même stupide si on veut faire de l'emploi pour les jeunes. Parce que si vous maintenez les vieux dans le boulot, c'est ça que les jeunes n'auront pas. Et il faut quand même y réfléchir profondément. Parce qu'en ce moment, 2005, 2006, 2007, c'est normalement le départ du baby-boom de 45, 46, 47, exactement après-guerre. Il était prévu qu'environ 85 000 fonctionnaires partent, entre 85 000 et 100 000 l'année dernière, autant cette année et autant l'année prochaine. C'est-à-dire que vous auriez normalement 200, 250 000, 300 000 emplois au concours. Ah, ça, c'est des vrais boulots pour les jeunes. Mais que fait Monsieur de Villepin? Il a permis que les fonctionnaires restent cet été jusqu'à 67 ans au lieu de 55 ans. Il a mis des décotes, ce qui fait que les fonctionnaires ne peuvent pas partir pour, sans avoir une retraite décente. Et ensuite, il pousse les gens à rester. Ensuite, ceux qui partent, ils ne remplacent pas leur poste. Ceux qui partent, ils suppriment des emplois. Donc en fait, ils suppriment des emplois qui sont là pour les jeunes. Il y aurait 300-400 000 emplois avec les départs en retraite actuellement pour les jeunes. Et toute la politique de Monsieur de Villepin, c'est que ces emplois ne soient pas pris par les jeunes en tant que tels. Pas de vrais emplois, pas de concours, pas d'entrée dans la fonction publique. Et c'est pareil dans le privé. Parce que ce qu'il y a dans le privé, c'est que vous avez aussi 250 000, 300 000 personnes qui doivent partir parce qu'ils atteignent 60 ans aujourd'hui. Toujours à cause du baby-boom, à cause de la démographie. Et c'est pareil, on les maintient dans l'emploi parce qu'on dit vous n'avez pas les 47 annuités, les 40 annuités. Et comme vous n'avez pas les 40 annuités, vous n'aurez pas une bonne retraite, donc restez. Donc Monsieur Villepin, en allongeant la durée du travail sur la vie, ne crée pas d'emploi pour les jeunes. Alors vous me direz, mais comment affiche-t-il l'objectif de lutter contre le chômage? Ben, il l'affiche parce que le chômage va baisser mécaniquement. Lui, il freine cette baisse et il se sert du chantage à l'emploi pour faire rentrer les jeunes dans de mauvaises conditions d'emploi. Parce que sinon, s'il y avait d'un seul coup 400 000 postes qui s'ouvraient, mais les jeunes, ils arriveraient triomphants sur le marché du travail en disant « donnez-nous du bon boulot et donnez-nous du salaire, il y a place pour nous ». Tandis que si on leur maintient le couperet sur la tête, eh bien, on les fait avaler le CPE, le CNE, et on leur dit « vous n'avez pas le choix, vous êtes en surchômage ». Donc c'est, en fait, Villepin ne lutte pas vraiment contre le chômage, il freine un chômage qui devait mécaniquement être très fort pour se servir de ce chantage à l'emploi pour dégrader les droits des jeunes qui y rentrent. C'est tout pour le MEDEF, c'est rien pour les jeunes. C'est tout pour contre le droit du travail, c'est rien pour le droit du travail. Et ce n'est pas vraiment contre le chômage. Madame Parisot, vous avez remarqué, veut remettre en cause la durée légale du travail, toute durée légale. Hein, toute durée légale. Et elle suggère que le législateur n'ait plus le droit de légiférer sur le droit du travail, sans qu'il y ait un accord préalable des partenaires sociaux. Ils envisagent même de faire rentrer ça dans la Constitution. Ce qui signifierait que quand le patronat n'est pas d'accord, le parlementaire ne peut pas voter une loi. Quand je disais que c'était Cro-Magnon, le retour à la barbarie, à l'ère prénéolithique et le recul de siècles en arrière, je n'exagérais pas.
Mais vous ne pensez pas qu'avec plus de flexibilité, il y aura plus d'embauches, plus d'ouverture d'emploi?
Flexibilité, flexibilité. Avez-vous remarqué que le patronat n'a que ce mot-là à la bouche, mais quand il s'agit de payer, il est d'une rigidité extraordinaire. À la seconde, à la minute près, il calcule le salaire. Mais quand il faut faire travailler les gens, alors là, soyez flexible, soyez flexible. Mais qu'est-ce que c'est la flexibilité? Eh ben, c'est le fait de vous faire travailler davantage, n'est-ce pas? Si on vous fait travailler davantage, on a moins besoin d'embaucher quelqu'un d'autre. Mais c'est assez simple à comprendre, je peux vous le décrire avec un exemple. Une entreprise de nettoyage, on dit technicien de surface, une entreprise de nettoyage, 145 salariés, faisait faire tellement d'heures supplémentaires à ses salariés. Alors, ils étaient le matin à Nanterre, le midi dans mon secteur, dans le deuxième arrondissement, le soir à Montreuil. Ils travaillaient avant l'ouverture des bureaux, ils travaillaient après la fermeture des bureaux, font 280 heures par mois pour le SMIC, hein. Et ces salariés faisaient tellement d'heures qu'il y a un délégué qui a réussi à me piquer le registre et à me le donner. Et je voyais les infractions considérables. Tous les salariés dépassaient les durées maxima, qui, je le rappelle, sont de 10 heures par jour et de 48 heures par semaine. Et ça durait depuis des années. Il y avait de quoi faire payer les heures supplémentaires 5 ans en arrière, parce que c'est la prescription est de 5 ans. Et le patron, affolé, voit que j'ai toutes les preuves pour lui faire le procès verbal. Il me dit « Ne faites pas ça, monsieur l'inspecteur, je négocie ». Je dis, mais vous négociez quoi? Vous avez quoi à négocier? Vous êtes en infraction, vous êtes un délinquant. Et il me dit, je vais embaucher. Et effectivement, il a embauché 55 personnes simplement pour se mettre en accord avec la réglementation. Comme quoi, c'est la réglementation qui crée du droit au travail, et non pas l'inverse. Si vous déréglementez, vous créez du chômage. Si vous réglementez, vous créez du travail. Le droit du travail crée du droit au travail, contrairement à toutes les fariboles et les mensonges qu'on nous déverse.
Sommet insondé, danser G8, G7, G6, danser au-dessus du volcan, en attendant le grand feu d'artifice. Danser de sommet insondé, danser G8, G7, G6, danser au-dessus du volcan, en attendant le grand feu d'artifice. On est par la cour comme la grève, de grève générale à la couleur, couleur est rouge et loin des pots ou des drapeaux.
Allô, oui.
Oui, pardon de vous couper. Hein. Votre intervention, c'est d'ici deux minutes. Hein.
Alors, toujours dans le local de l'UNEF, il y a Anne, une des militantes, qui se prépare à faire un direct. Et direct, donc au journal de 20h.
T'as libre, t'as louche ?
Anne 3210.
Vous êtes la secrétaire générale de l'UNEF. Entre le cadre, Benoît, s'il te plaît, les cas étudiants. En fait, pour vous, ce CP, il change quoi par rapport à la situation actuelle ?
Tout simplement, là, on nous dit qu'on nous propose un contrat à durée indéterminée, alors même que ce n'est pas un contrat à durée déterminée. C'est au contraire un emploi extrêmement précaire, puisque c'est une période d'essai de 2 ans durant laquelle on pourra se faire.
Voilà, depuis le local de l'UNEF, hier soir, intervention des étudiants sur des radios, là, en l'occurrence BFM, et voilà, c'était la fièvre, c'était ces moments heureux, finalement, de préparation, d'exaltation avant la manif, et pour beaucoup de jeunes aujourd'hui, à travers toute la France, c'était la première manif. Rencontre avec Slimane.
Je m'appelle Slimane, j'ai 18 ans, j'habite à Épinay-sur-Seine. Dans le 93. Je fais des fonds d'affiches. Là, je fais une série de fonds d'affiches pour couvrir la fac, pour informer les étudiants déjà informés. Mais il faut les conscientiser. Il faut qu'ils sachent que on veut faire bouger les choses. Déjà à Paris 13, on est une fac de banlieue déjà. C'est déjà une première discrimination parce que les facs de banlieue, ils ont moins de financement que les facs parisiennes. Premier point. Et deuxième point, pourquoi on se mobilise contre le contrat première embauche? C'est parce que c'est dans les universités de banlieue où le taux d'échec au premier cycle, il est plus élevé. Et ceux qui sortent du cadre universitaire, soit ils se retrouvent à la rue, soit ils se retrouvent avec des contrats précaires, des CDD d'un mois. Et là, on va leur mettre quoi? Ils ont pas de qualification. Ils ont même pas Bac+1. On va leur mettre quoi? On va leur mettre un contrat première embauche. Je pense que c'est une insulte faite à la jeunesse, et non pas un cadeau, et non pas un contrat social. Je pense que c'est un contrat libéral qui vise à flexibiliser. Et aussi, c'est une insulte aux générations passées qui se sont battues depuis 45 pour défendre nos intérêts. Ils nous ont créé une sécurité sociale. Ils nous ont mis les bases d'une égalité des droits et des conditions et qu'on doit défendre. On doit défendre cette position. Les troupes, entre guillemets, sont mobilisées, je pense.
Ça va être ta première manif demain ?
C'est ma première vraie manifestation. On est en train de faire tout notre possible, on mobilise, on focalise toute notre attention sur cet événement. On a du contact, on est sur le terrain et je suis très content.
Et évidemment, ce n'est qu'un début. C'est pas tout à fait un début quand même pour Gérard Filoche. Je rappelle, inspecteur du travail, auteur de carnet de l'inspecteur du travail, un inspecteur du travail engagé. Il faut écouter ces gens-là parce que au point où on est, le code du travail détruit de plus en plus chaque jour. Les inspecteurs du travail, eux aussi, un de ces quatre, vont se retrouver. Bah comment CNE, CPE.
Alors, vous en avez croisé, vous, sur le terrain, des personnes salariées en CNE. Comment est-ce qu'elles le vivent?
Oui, la première femme que j'ai eue, c'était justement début septembre, et elle me raconte cela. Elle était embauchée dans un magasin discount, et elle me dit, voilà, il m'a pris pour 32 heures, et la première semaine, il m'a fait faire 42 heures. Ah bon? Et je dis, qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Alors, elle me raconte, elle me dit, bah voilà, moi, j'aurais peut-être pas dû manger un croque-monsieur le midi en face le magasin avec un ami. Le patron m'a dit, ah, c'est ton mari? Et j'ai dit, je sais pas pourquoi je lui ai répondu. J'ai dit, non, c'est mon ami. Je sais pas ce que ça lui a fait, mais le soir, elle m'a proposé de me ramener en voiture à 9h30 du soir parce qu'on terminait tard. Dans la voiture, elle m'a fait des propositions en me disant que si je voulais bien, j'aurais de bons horaires. Évidemment, je l'ai envoyé promener. La semaine suivante, il m'a mis entre 9h et 11h le matin et entre 18h et 22h le soir. Et in fine, il m'a fait faire finalement 45 heures. Qu'est-ce que je peux faire, monsieur l'inspecteur? Qu'est-ce que vous voulez que je lui réponde? Rien. Si je vais faire un contrôle ou j'essaie de faire une remarque, une observation à l'employeur, mais il va la virer. Et ça sera pas, il dira pas que c'est à cause de ma remarque. Il n'a pas besoin de rien dire, encore une fois, puisqu'il n'a pas besoin de motif. Donc, en vérité, les gens qui sont dans cette situation sont des gens sans droit. Ce sont des exilés du Code du travail pendant 2 ans. Ils ne peuvent se réclamer de rien, ils ne peuvent revendiquer rien, ils ne peuvent pas syndiquer, ils comptent pour du beurre. Pendant 2 ans, ce sont des demi-esclaves. Monsieur de Villepin a réussi la prouesse de remettre en cause un droit fondamental de l'homme. Que même la dernière charte européenne des droits de l'homme dit qu'on doit avoir motif pour licencier. Avec monsieur Villepin, non.
On ne sait pas qui seront les premiers favorisés, mais qui seront les premières victimes, à votre avis, de ce CPE?
Les syndicalistes, le droit du travail, l'ordre public social, l'état de droit dans l'entreprise, la civilisation. Parce que quand on peut, dans une société, licencier sans motif, c'est un recul de civilisation. C'est un recul global. Encore une fois, on pourra pas défendre le paiement de ses heures supplémentaires auto-légales. Encore une fois, on pourra pas protester contre de mauvaises conditions de travail. On n'usera pas des droits de retrait. On fera pas valoir l'ensemble de ses droits du travail. Voilà, c'est le fond. C'est un pas en arrière de près d'un siècle. Voilà ce que Villepin nous propose. Il se prétend moderne et social. Quelle rigolade.
Ça, c'est l'échec de 20 ans de libéralisme?
Ah non, c'est la poursuite de 20 ans de libéralisme. En fait, en France, le libéralisme étant l'offensif comme il l'était avec Reagan et Thatcher en Grande-Bretagne et aux États-Unis, il a été freiné par la gauche au pouvoir. La gauche n'a pas fait des miracles, mais elle freinait le développement du libéralisme. Et ils ont eu 3 périodes d'attaque, les libéraux. Ils ont eu 86-87, là, ils ont essayé à fond de déréglementer, de supprimer le contrôle administratif sur les licenciements. Ils ont fait une deuxième tentative entre 93 et 97, entre la loi quinquennale et le plan Juppé sur la sécurité sociale. Ils ont perdu une deuxième fois. Et maintenant, depuis le 2002, ils se sont lâchés. Ils font ce que j'appelle une véritable contre-révolution blanche, là. C'est-à-dire qu'après avoir attaqué les retraites, après avoir attaqué la sécu, ils attaquent le code du travail parce que c'est le moyen pour les salariés de regagner les retraites et les sécu. C'est leur instrument, leur arme de défense. Donc, faut leur enlever leurs armes juridiques. Donc, c'est la totale, en quelque sorte. Hein. Villepin continuera Farin et Fillon, et tous ensemble, avec le MEDEF, épaulés par le MEDEF, et sur les ordres, en gros, du MEDEF, ils essaient de détruire ce qui reste d'acquis sociaux, d'éléments du pacte républicain encore en place depuis 1945. C'est la grande offensive, la grande contre-révolution blanche qu'on est en train de subir. La question, c'est de savoir si nous aurons la force dans la rue et dans les urnes de l'empêcher et de l'abattre.
Excuse-moi, tu m'as pas dit comment tu t'appelais?
Pierre.
Pierre, toi, tu accepterais un CPE sans problème?
Moi, j'accepterais un CPE sans problème.
T'as pas peur pendant 2 ans de te dire qu'à tout moment, tu peux être licencié, de te dire que tu peux faire absolument aucun projet si t'es...
Premièrement, est-ce que vous croyez que finalement, quand un patron est pas satisfait
d'un salarié, ne peut-il pas le renvoyer aujourd'hui? Je pense qu'il peut le renvoyer. Là, il y a des garanties, il y a des garde-fous qui sont mis avec l'indemnisation. Et on sait bien quand même que le nerf de la guerre, c'est l'argent. Donc voilà, donc moi, oui, évidemment, je préfère le CPE plutôt que le chômage, qui est une vraie solution de précarité et qui, là, empêche tout avenir. Alors là, je le répète une fois encore, je veux dire, avec un CPE, vous pouvez vous projeter dans l'avenir. Parce que le but d'un jeune, c'est quoi, schématiquement? C'est d'avoir un travail, d'essayer de fonder une famille et d'avoir un logement. Et bien avec le CPE, c'est ce qu'on permet.
Peggy, il m'explique que le CPE, c'est génial en fait.
Moi, je suis pas du tout d'accord parce que moi, je crois que un jeune de moins de 26 ans qui veut se fonder, en fait, veut avoir une famille, veut pouvoir se loger et qui peut se faire mettre dehors n'importe quand, moi, je peux pas croire que ça va être un emploi stable et qu'il va pouvoir fonder sa vie là-dessus et avoir un logement et tout ça quand il peut se faire mettre à pied n'importe quand, perdre son logement n'importe quand. Puis pouvoir faire ses études et tout ça, c'est vraiment... je comprends pas comment on peut essayer de faire croire...
Alors Pierre, pourquoi tu t'en vas? Pierre, c'est ça, hein? Ah, mais tu viens de m'expliquer que c'était un véritable contrat à durée indéterminée, en fait.
Oui, voilà, mais moi je trouve que c'est la précarité complètement. Parce que si tu te fais mettre dehors, comment tu fais pour continuer à payer ton logement?
Alors, je pourrais répondre, mais finalement, pas répondre sur les critiques, parce qu'on n'est pas d'accord sur le fond. On voit pas exactement la même chose. C'est un vrai contrat à durée indéterminée. Mais alors, que propose l'UNEF? Bah, donnez-nous une proposition pour les jeunes.
Est-ce qu'on ne peut pas penser que ce contrat va être victime de son succès et être étendu à d'autres types d'entreprises et remplacer petit à petit les CDI et les CDD?
Trop de taxes, trop de temps. Oh, trop d'impôts, trop de complots, encore trop de taxes, trop de dons. Oh, trop d'impôts, trop de complots. Oh, si je voudrais que les gens reprennent vie, que chacun ait tout ce qu'il veut aussi. Je rêve que mon pays France reprenne vie, que le mouvement populaire nous redonne l'avenir. Sans critiquer notre politique, bon sang, ça craint. Trop de gens se plaignent de tous nos politiciens qui se tuent la vie tous les jours comme des chiens à se préoccuper du bien-être de tous les citoyens. La politique appartient à celui qui veut la paix et non pas à celui qui cherche à tout briser. Qui est mieux placé que Sarkozy nous montre la réalité. Ce ne sont que des idées dites par le peuple français. Trop de taxes, trop de dons. Oh, trop d'impôts, trop de complots. Encore trop de taxes, trop de dons. Oh, trop d'impôts, trop de complots. Aussi, je voudrais que les gens reprennent vie. Que
il nous faut décider d'un programme d'action innovant, courageux, ambitieux. Cela suppose, je n'hésite pas à le dire, un tournant majeur dans nos politiques économiques et sociales. Il n'y a pas de fatalité.
On vous la repassera, on vous l'a déjà passé. Vous avez été très très nombreux à nous demander d'où venait ce tube, d'où venait cette chanson extraordinaire. Eh bien, on vous le dira très très bientôt, mais il faut d'abord que on réponde à votre attente et à votre demande d'écouter très souvent ce tube inégalable. Alors, vous avez vu, hein, il y a des jeunes gens qui sont quand même pour. On en a trouvé, Olivia en a trouvé. C'était devant Assas, l'université Assas, bien connue pour présenter des étudiants de sensibilité, disons, pas vraiment à gauche.
Je ne sais pas si vous connaissez le réadressement étudiant de droite.
Non, alors on m'a dit que c'était les successeurs du GUD, c'est ça?
Non, nous sommes les successeurs de ce mouvement. On est un mouvement en fait avec notre charisme propre, notre originalité propre. Et donc, nous n'avons pas pour habitude de soutenir des mesures gouvernementales. Mais là, au vu en fait de la désinformation qu'ont fait régner les syndicats socialo-communistes à Paris 2, à Tolbiac, à Jussieu, à Sorbonne, à Sciences Po, on a en fait décidé de lancer une grande campagne de mobilisation et de sensibilisation des étudiants en faveur du contrat de première embauche et surtout en fait contre les informations que font régner les syndicats de gauche, puisqu'on s'aperçoit en fait que le seul et réel enfant de la gauche actuellement, c'est le chômage. C'est-à-dire que 3 millions de chômeurs, c'est le résultat de 16 ans de socialisme en France. Et donc là, en s'opposant au CPE, la gauche cherche à protéger à nouveau son enfant chéri, c'est-à-dire le chômage.
Là, c'est Jacques Chirac qui est au pouvoir depuis, 95-2006, ça fait un bout de temps, 11 ans.
C'est-à-dire que les socialistes ont gouverné assez longtemps, et ils ont fait peser une certaine chape de plomb, en fait, sur tout le débat politique. Toute personne qui voulait avoir des idées un peu plus à droite, un peu plus innovatrices, comme ont pu l'avoir Ronald Reagan ou Margaret Thatcher, ils ont dû céder sur la famille, ils ont dû céder sur l'immigration. Et là, nous craignons en fait que le gouvernement cède sur le contrat première embauche. Donc, nous aimerions bien que cette fois-ci, le gouvernement ne cède pas face à la pression de la rue. Et c'est pour ça, en fait, que nous mobilisons en faveur du contrat première embauche.
Juste votre nom ?
Le Rassemblement étudiant de droite. Jean de Calviac.
D'accord. Et alors, mais Lorraine, on est d'accord que c'est plutôt l'extrême droite, hein, quand même. Hein.
Nous sommes plutôt des personnes qui sont extrêmement amoureux de notre pays, extrêmement amoureux de, justement des étudiants, et nous cherchons à les défendre. Et nous sommes scandalisés puisque nous voyons que la François Hollande et Ségolène Royal se servent en fait de la question du CPE, justement pour essayer de se faire élire à la présidence de la République en 2007.
Voilà, François Hollande et Ségolène Royal, les socialo-communistes. Et oui, c'est le RAID, donc rencontré à Assas par Olivia Gesbert. On va revenir. Vous voyez que tout le monde peut s'exprimer dans la basse. Absolument tout le monde, y compris les inspecteurs du travail. On retrouve Gérard Filoche pour une conclusion, évidemment provisoire.
Qu'est-ce qu'on leur offre aux jeunes aujourd'hui, finalement ? À part de la démotivation.
L'affaire de l'emploi n'est pas seulement un problème jeune. Hein. C'est un problème pour maintenant plus de 3 millions de chômeurs officiels, c'est-à-dire demandeurs d'emploi hein, officiels. Mais il y en a beaucoup plus en réalité. Mais écoutez, il faut reprendre une politique de fond. Il faut de vraies 35 heures. Pas des 35 heures pipotées, faibles ou flexibilisées. De vraies 35 heures pour tout le monde. C'est-à-dire vous baissez pas seulement la durée légale, mais vous baissez la durée maximale du travail, de 48 à 44 heures. Vous imposez 2 jours de repos consécutifs par semaine pour tout le monde, parce qu'il y a des millions de salariés qui ont perdu ces 2 jours de repos consécutifs. Et là, vous avez une durée du travail baissée et encadrée. Je vous jure que ça crée de l'emploi. Les 35 heures mal faites ont créé, de la vie de tout le monde, 350 000 à 400 emplois. 35 heures bien faites créeraient 1 million d'emplois. Et là, vous en auriez pour les jeunes. Ensuite, abolissez la loi Fillon sur les retraites. Permettez aux gens de partir réellement à 60 ans. Là, vous aurez 300 ou 400 000 emplois, comme je le disais tout à l'heure, pour les jeunes. Vous aurez 150 000 postes au concours dans l'année qui vient. Ensuite, ne réduisez pas les services publics. Nous avons besoin de gens dans les hôpitaux aux urgences. Nous avons besoin de gens à la poste dans les guichets. Nous avons besoin de jeunes dans les écoles pour encadrer. Et on dit qu'il y a trop de violence. Ouvrez ces postes au concours et vous aurez de l'emploi. Vous n'avez pas besoin de faux emplois, de sous-emplois ou de dérivés de l'emploi ou de gadgets, de contrats, éducation, solidarité, trucmus, civique, etc. etc. Il y a des vrais emplois pour la jeunesse. Et le seul problème, c'est qu'il faut que les profits soient moindres. Parce qu'il faut les payer, ces emplois. Et que les profits, il faut qu'ils soient redistribués pour que ces emplois existent. Bah, maintenant, il y a eu quand même des luttes à Accor, McDonald's, Stop Précarité. Vous avez eu des jeunes qui ont su s'organiser, même des cadres, j'allais dire, des gens qui sont devenus des animateurs syndicaux de qualité et qui sont nés. Bon, il y a plein de raisons d'espoir. Moi, je ne suis pas du tout de ceux qui, tout en constatant les fourberies et les attaques grossières de Villepin, je ne suis pas de ceux qui pensent qu'il va gagner.
Vous croyez à un éventuel retrait du CPE alors que Villepin fait tout pour essayer de presser, bousculer le calendrier en menaçant même d'utiliser l'article 49.3, le fameux.
C'est le mot d'ordre que je crierais avec tous les jeunes, retrait du CPE. C'est le mot d'ordre unique de 17 organisations de jeunesse, de toutes les confédérations syndicales et de tous les partis de gauche, et même de l'UDF.
Nous faisons tout ce que nous pouvons pour convaincre les Français.
Qui dira aujourd'hui une vision humaniste de l'économie,
qui fait du travail quelque chose qui est un allié de l'homme et non pas l'adversaire.
On ne fait pas assez d'efforts dans notre pays pour faire partager le bon du travail et le besoin.
Allez voir ce que c'est que le monde du travail, préparer son intégration, entrer dans l'entreprise.
Avec un vrai contrat et dans une vraie entreprise pour avoir une vraie perspective.
Voilà, contrat précaire d'exploitation, contrat poubelle embauche, chômage, précarité, exclusion, c'est les petits noms qu'a reçu aujourd'hui à travers toute la France le CPE, 225 000 participants selon les organisateurs, et les sondages indiquent que 60% des Français jugent que le CPE va augmenter la précarité, et 67% considèrent la mobilisation justifiée, donc ce n'est qu'un début. Merci à Olivia Gesbert qui était le reporter aujourd'hui, assisté de Guy Vanctil. Merci à Gérard Filoche. Merci à Jean-Pierre Quénantin du MNCP. À lire le bouquin de Gérard Filoche, carnet d'un inspecteur du travail. Toutes les informations sont disponibles sur le site de Radio France à la rubrique émission là-bas. Si j'y suis, Sandrine Laurent et Rémi Quincet étaient à la technique aujourd'hui. C'est Yann Chouquet et Koyen Guyen qui ont réalisé cette émission modeste et géniale, assisté de Pascal Pascariello et Christophe Imbert. Pour le répondeur, dont le numéro est le 01 56 40 37 37. Réclame. We'll be right back.